Bienvenue à IA du Neuf. Aujourd'hui, on explore comment l'IA œuvre pour le bien commun en protégeant à la fois la biodiversité et nos infrastructures essentielles. Nos invités de cette semaine nous montrent comment l'intelligence artificielle devient un allié précieux, que ce soit pour surveiller les océans ou garder nos maisons au chaud. Émilie Charrette-Tissier, cofondatrice de WhaleSeeker, explique comment l'IA permet de détecter les baleines afin de prévenir les collisions avec les navires et d'aider au recensement des populations pour la recherche biologique. Arnaud Zinflou, chercheur chez Hydro-Québec, explique comment l'IA inspecte le réseau souterrain pour prévenir les incidents. Cet épisode met en lumière une même technologie appliquée à deux contextes. La détection visuelle pour surveiller la fonte marine et inspecter nos infrastructures. Bonne écoute.
Aujourd'hui, on va discuter de l'IA pour le bien commun, donc comment l'IA vient nous aider de manière large pour la protection des espèces, pour la transition énergétique. C'est Laetitia Constantin, développeuse web et IA chez Explorer, et je suis accompagnée de Rémi Dion, VP et cofondateur.
Aujourd'hui, comme à chaque fois, on parle de l'impact de l'IA dans la société, en industrie. C'est une période de transition. Comment on fait pour garder un œil sur les différents espaces où l'IA va avoir une subtile ou très grande marque?
Donc, on va commencer directement par les présentations. Émilie, alors ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais découvert WhaleSeeker en 2021. Depuis, c'est passé plein de choses. On s'est croisés plaisir fois sur ce genre d'événement. Donc, ça a un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous.
Moi aussi, le
tout. WhaleSeeker, à la base, c'était pour détecter les baleines, pour éviter les accidents avec les bateaux et recenser leur nombre pour des aspects biologiques. Comment est venue cette idée-là?
Alors, cette idée est venue parce que j'ai épousé un biologiste marin. Et moi, je suis écologiste et j'adore vraiment l'aspect de déchiffrer des grosses bases de données et puis de comprendre les données plus complexes. Et donc, pendant mon congé maternité, j'ai eu l'opportunité de travailler avec mon mari, donc Bertrand Chary, pour mieux comprendre l'habitat critique des narwhals dans un archipel de l'Arctique canadienne. Et puis, parmi cette zone, est-ce qu'il y avait des endroits qui méritaient plus de protection ou plus de surveillance? Et pour justement quantifier tout ça, il fallait passer à travers des images aériennes, donc des images prise d'un avion ou d'un drone, et puis de compter les narwhals là-dedans. Donc, bon, tout le monde qui a vu Sauver Willy est capable de détecter une baleine si on voit la belle silhouette, ou on est capable de dire non, il n'y a rien dans l'eau, il n'y a pas d'animal, c'est juste de l'eau. Mais c'est vraiment toutes les nuances là-dedans. Et ce que j'ai vu à travers toutes ces images aériennes, c'est que la plupart des détections sont des nuances et que l'expertise sur le terrain de Bertrand était essentielle. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait passer à travers ces images-là en gardant la même qualité de données, mais sur une plus grande échelle? Ben, il fallait naturellement se fier à l'intelligence artificielle. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution comme ça qui existait pour tous les gens qui avaient besoin de ces données-là. Qui a besoin de ces données-là? Le gouvernement, les gens qui gèrent le trafic maritime, les ports, la conservation, l'énergie, les éoliennes. Donc vraiment, il y a énormément de gens qui ont besoin de ces données-là, qui prennent des décisions sur l'économie bleue, qui ont des millions, même des milliards de dollars. Et je voulais m'assurer qu'ils se fient à des bonnes data pour prendre ces décisions.
Et Arnaud, pour te présenter, toi également, alors tu es chercheur en intelligence artificielle à Hydro-Québec. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et jusqu'à être arrivé, ça fait des années que tu travailles à Hydro-Québec. Comment t'es arrivé jusque-là?
Mon parcours, c'est que j'ai fait une maîtrise et un doctorat en maîtrise en informatique, doctorat en ingénierie. Par la suite, quand j'ai été embauché à Hydro-Québec, j'ai commencé par travailler sur des problèmes de données aussi d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a énormément de données qui sont générées à Hydro-Québec, mais chacune des utilités électriques a ses propres schémas de données. Et des fois, c'est difficile d'interagir même d'une unité à une autre parce que le format change. Même si les données de base peuvent sembler les mêmes, elles sont totalement différentes. Mais pour faire un petit peu un lien avec ce que Nili a dit, notamment, je m'occupe de projets au niveau de l'inspection des structures souterraines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hydro-Québec a un large réseau de structures souterraines, donc 22 000 km. Avec le temps, les équipements vieillissent comme toute chose, donc les jonctions se détériorent à cause de, notamment du fait que l'hiver est très rude ici. On utilise beaucoup de produits chimiques pour enlever la glace, le sel et tout ça. Et il y a aussi les animaux qui, des fois, décident de grignoter les câbles, ce qui peut causer des problèmes. Et donc, Hydro-Québec a parti en 2001 à un programme d'inspection thermique qui se base sur des images qu'on comprend. C'est quelque chose qui demande beaucoup
de travail humain.
Et avec le temps, il y a beaucoup de moins en moins de personnes qui le font. Mais le réseau souterrain grandit de plus en plus. Donc, on se retrouve face à une problématique. Et là, on s'est rendu compte aussi que la qualité des images, au fil du temps, se dégradait un petit peu. Donc, comment faire pour maintenir la qualité des images et maintenir aussi la qualité des inspections pour faire les remplacements juste à temps et éviter des problématiques?
Là, on se retrouve sur le même sujet aussi parce que pour les observateurs de mammifères marins, on manque de personnes qualifiées autour du monde aussi. Et avec l'économie bleue qui est en croissance incroyable, on a besoin de plus de données. Il y a moins de personnes qualifiées pour faire ça. Donc, on se retrouve là-dessus qu'on a besoin de se fier à l'intelligence artificielle pour avoir des bonnes données à une grande échelle.
Je suis curieux. Là, on parle de main-d'œuvre qualifiée. Dans le domaine de Whale Seeker, on cherche à reconnaître des baleines. Ça ne doit pas être bien compliqué. Dans le domaine de Hydro-Québec, qu'est-ce qu'on cherche à reconnaître? C'est de la corrosion?
Non, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les défauts électriques, et ça, c'est vraiment une spécialité. C'est des thermographes. Donc, c'est des gens qui vont chercher à partir d'images thermographiques à reconnaître les différents types d'échauffement. Donc, il y a des échauffements qui sont résistifs et des échauffements diélectriques. Les échauffements diélectriques peuvent entraîner des problématiques qui sont quand même assez importantes parce que lorsque la petite membrane de la jonction se détériore, même ça crée des arcs électriques. Et les arcs électriques, quand il y a un travailleur qui rentre dedans, ça peut causer des électrocutions, ça peut causer des brûlures. Et dans le pire des cas, en fait, vu que c'est fermé, c'est dans le réseau souterrain, le socle est quand même fermé hermétiquement. Puis il y a du gaz qui s'accumule. Donc, dans le pire des cas, c'est une explosion. Et une explosion, ça peut faire monter le couvercle du pedum jusqu'à 15 mètres de hauteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce couvercle, il pèse à peu près 200-220 livres. Donc, monter à 15 mètres de hauteur et retomber sur la population, ça peut être dangereux. Et ça n'a l'air de rien, mais il y a des statistiques qui ont été faites en Amérique du Nord, des accidents de ce type. Il y en a 11 qui arrivent à chaque jour.
À chaque jour? Je pensais que c'était à l'année.
En Amérique du Nord. On est assez épargné ici, mais c'est quand même... C'est pour ça aussi qu'on fait les inspections. Ce n'est pas juste pour la sécurité des travailleurs. Évidemment, il y a la sécurité des travailleurs, mais c'est aussi la sécurité du public. Mais tu as raison de mentionner aussi, au-delà des défauts électriques, il y a les défauts civils, donc tout ce qui sont la corrosion, les fissures, des laminations. Ça aussi, c'est des choses qu'en faisant l'inspection, on peut regarder. Mais cette fois-ci, pas avec des caméras thermiques, mais avec des caméras 360.
Dans le cas de Whale Seeker, l'expertise demandée,
Pour annoter les images d'entraînement et de vérifier les bonnes images, ce sont des biologistes marins, mais qui ont de l'expérience sur le terrain. Donc, c'est à rien qui remplace l'expérience humaine, mais on a besoin de se fier à l'intelligence artificielle pour qu'on puisse faire plus, plus vite, pour qu'on puisse aussi assurer que la qualité est bonne, qu'il y a une standardisation aussi, pour qu'on puisse comparer les données d'une année à une autre. D'un jour à un autre.
Je me rappelle avoir vu une image de Whale Seeker. On voyait une image satellite. Et puis, la question, c'était, voyez-vous la baleine? Et moi, je me dis, ça devrait être évident. Une baleine, c'est gros. Il y a différents enjeux. Pixelisation, peut-être, mais c'était pas ça. Le coup de génie, ici, c'était, on voyait plein d'icebergs. C'était un casse-tête intéressant. C'était un « Où est Charlie? » Puis c'est là que je me suis dit, moi, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à voir elle est où, la baleine.
Et ça, c'est une image. Imagine 100, 50 000, 100 000 images. on réalise très vite pourquoi on a besoin d'autres outils que juste les yeux humains.
Et ça, et quand c'est des images satellites ou des images de drones, comment vous faites si la météo est différente, un nuage, nuage bas, brouillard, est-ce que...
Ça... Ben, on ne peut pas utiliser les images.
Ouais, c'est... vous avez des alternatives?
Ben non, donc nous, c'est vraiment, on veut démocratiser l'accès à ces outils-là. Donc, on utilise juste les photos régulières, puis des images satellitaires que n'importe qui peut acheter ou utiliser. Mais on a les mêmes limitations que les personnes, les observateurs de mammifères marins humains. Pour le moment, c'est vraiment de faire le travail comme un humain le fait, mais à une plus grande échelle et mieux. Donc, oui, il y a des outils, mais qui coûtent très cher. On avait un choix à faire dans notre compagnie. Est-ce qu'on veut développer des choses qu'on peut mettre au service de tous les acteurs qui en ont besoin, ou est-ce qu'on développe des solutions juste pour le militaire, des grosses compagnies énergétiques? Donc, en réalité, on fait les deux. Mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est de créer des solutions où tout le monde peut l'utiliser.
Il y a quelques années, vous étiez exclusivement focalisé sur les baleines et ces mammifères-là. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus diversifié sur d'autres espèces animales.
Absolument. Donc, oui, tous les cétacés, vraiment, c'est la méso et mégafaune marine. On a détecté des phoques. Des ours polaires aussi sont considérés comme des mammifères marins. Donc, on a un projet avec Pêcher Océan canadien. On a même fait un projet dans l'Antarctique pour détecter les pingouins et les nids de pingouins. Vraiment, on est focalisé sur les animaux marins.
Est-ce qu'il y a besoin de réentraîner les modèles que vous aviez à la base pour les baleines ou comment?
Oui, absolument. Pour ajouter des espèces en plus, il nous faut des bases d'entraînement, des exemples de ces espèces-là. Et puis après, on peut les intégrer assez facilement, mais c'est sûr qu'on ne peut pas commencer de nulle part.
C'est des étendues énormes, des glaciers, de l'eau. Est-ce que si jamais on se dit, ah, demain, on voudrait regarder et compter des espèces en Amazonie, par exemple, des oiseaux bien particuliers qu'on trouve plus difficilement, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, à force de réentraînement, marcher? Là, on serait sûr. La forêt amazonienne, c'est très dense, c'est un détail particulier là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable?
Toute notre base d'entraînement est sur l'eau. Oui, on est capable de détecter des animaux terrestres, mais vraiment, on veut rester pour détecter des choses marines, donc de détecter des cibles dans l'eau. On ne peut pas utiliser les mêmes choses parce que dans l'eau, l'eau est dynamique aussi. Donc, on ne peut pas avoir la même approche. Et quand j'ai commencé Whale Seeker, je me suis dit, oh tiens, il y a tellement de IA qui existent déjà pour trouver des cibles dans l'eau, comme un bateau de pêche qui est perdu ou quelqu'un qui est passé à bord. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes solutions, les mêmes méthodes, mais juste les changer un peu pour les mammifères marins? Et en réalité, non. Fallait qu'on change parce que la façon que les gens ont créé leurs algorithmes, c'était pour trouver l'eau et ils enlevaient l'eau des images par la suite et tout ce qui restait était leur cible. Mais pour nous, on cherche pas tout, on cherche vraiment une espèce et donc il fallait qu'on trouve une autre approche.
Là, tu nous as donné des pistes à qui on veut reconnaître des animaux. On a la faune, méso et mégafaune. OK. Puis ensuite, tu nous as dit énergie et militaire. Quel est le lien? Quel est le lien entre faune et industrie? Qui sont vos clients?
Ah oui.
Puis comment ça vient impacter finalement monsieur, madame, tout le monde?
Pour tout ce qui est énergie, par exemple, transition énergétique, nous, on deal beaucoup avec tout ce qui est les éoliennes en mer. Donc, les parcs éoliennes, on a besoin de faire des études d'impact pour savoir si on construit des éoliennes à des certains endroits, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la biodiversité? Et pour faire ça, il faut des données qui sont standardisées, quantifiables, pour qu'on puisse suivre ça au fil des années. Le militaire aussi est obligé de respecter beaucoup des mêmes lois que les citoyens et de ne pas nuire aux mammifères marins. Donc, s'ils sont dans la région, ils font des, des activités qui peuvent nuire aux mammifères marins, ils ont besoin de savoir s'ils sont là pour qu'ils puissent démarrer leurs activités.
On parlait d'éoliennes et de transition énergétique. C'est que ce soit pour placer des champs éoliens, que ce soit pour placer des barrages, il faut toujours tenir compte de la diversité de la faune qui se retrouve là. Donc, ce genre d'études, on est preneur, on va dire ça comme ça. Donc, il y a un lien.
Ah, il y a des synergies.
Il y a forcément des synergies. C'est sûr que dans notre cas, ce n'est pas vraiment en haute mer. Mais par exemple, si on veut installer un nouveau barrage, il faut tenir compte de l'effet que ça va avoir sur la diversité de la faune autour de ce barrage. Là, on veut placer des éoliennes aussi. Un exemple simple, c'est que si là où tu as placé tes éoliennes, si tu as beaucoup d'oiseaux qui vont passer par là, il ne faudrait pas qu'ils se fassent...
Dans les trajectoires migratoires.
Les trajectoires migratoires, exactement. Donc, tenir compte de la biodiversité est important lorsqu'on veut installer des nouvelles sources d'énergie renouvelable, par exemple.
Ça me fait penser... Je m'étais intéressé à l'impact de l'IA dans le domaine de l'aménagement forestier. Mm-hmm. Au Québec, on a un immense inventaire forestier. Et l'un des enjeux, justement, c'est celui qu'on vient de mentionner. Si on veut extraire du bois de la forêt boréale, on ne peut pas le faire si, dans un certain rayon autour, il y a certains animaux. S'ils sont à moins de quelques kilomètres, il faut arrêter les opérations à cause du bruit. Il faut attendre qu'ils passent. Donc, il y a l'enjeu de les détecter, mais il y a aussi l'enjeu de prédire. « Hey, il y a un troupeau qui s'en vient, fait qu'on va aller ailleurs pour ne pas être dans le même territoire. »
Donc là, justement, de voir de prédire la trajectoire des troupeaux est important. De savoir quelles sont les espèces qui se trouvent dans l'environnement est important aussi. Donc, pour tout ça, l'IA peut aider. Et je pense que dans l'avenir, elle va de plus en plus être utile.
J'aimerais juste parler un peu des défis que vous avez. Je me demandais, Hydro-Québec, est-ce qu'il y a des défis, toi, dans les projets sur lesquels tu travailles aujourd'hui, que tu vois, que tu dis, voilà, si ce n'était pas Hydro-Québec, on aurait été embêtés, mais ça passe mieux. Ou alors, même si c'est Hydro-Québec, qui a une énorme structure, qui a beaucoup de moyens, de se dire, là, il y a quand même des limites et ça, c'est un défi.
En fait, pour répondre à ta question, c'est que oui, en effet, le fait que Hydro-Québec soit une grosse structure, ça peut aider dans un certain sens. Mais c'est aussi un frein dans d'autres, parce que pour faire entrer les nouvelles technologies comme l'IA, tu peux avoir certaines résistances au changement. Et puis, nous sommes dans un environnement qui est extrêmement régulé. Donc, l'explicabilité des méthodes est très importante, parce que tu vas travailler avec des ingénieurs, tu ne peux pas arriver pour dire, ça marche à 90%, mais je ne sais pas trop pourquoi ça marche. Ça ne va pas aller, parce que quand ils vont devoir justifier ça, eux, quand ils signent, ils ont besoin d'être sûrs. Donc ça, c'est le fait que ce soit un environnement très régulé, ça amène certains défis, de très, très gros défis. L'autre chose aussi, c'est que le fait qu'on soit Hydro-Québec, on a quand même une certaine image à maintenir. Et par image, je veux dire, ce n'est pas juste le nom d'Hydro-Québec, c'est qu'on a la chance ici au Québec d'avoir une énergie qui est renouvelable. Cela étant dit, ça ne veut pas parce qu'on a une énergie qui est renouvelable qu'il faut en abuser. Donc lorsqu'on veut mettre des nouveaux produits, des nouveaux algorithmes, des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle, il faut quand même s'assurer d'avoir limité la quantité d'énergie qui a été faite. Ça, c'est quand même très important pour Hydro-Québec. Autrement dit, de montrer l'exemple, d'être responsable dans la manière dont on utilise l'énergie.
Comment vous faites aujourd'hui pour vous dire, est-ce que là, ça vaut le coup d'entraîner mon modèle parce que ça va prendre tant de puissance et tant d'énergie et on veut être vert, donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? C'est des choses que vous étudiez?
C'est ça qu'on regarde aussi, c'est qu'en fait, on voit l'intelligence artificielle comme un outil, parce que ce n'est pas forcément la principale mission d'Hydro-Québec. C'est un outil parmi d'autres. Cela veut dire que si on trouve quelque chose qui est plus efficient, on peut aller vers cet outil. Quand c'est l'intelligence artificielle qui est le meilleur outil, on va aller vers là. Et pour répondre directement à ta question, oui, on fait quand même des études pour voir combien ça a coûté au niveau de l'entraînement, mais aussi de faire des études de vieillissement du modèle pour se dire, si c'est un modèle, oui, il est efficace, mais il faut le rentraîner tous les jours, peut-être qu'il faut chercher une autre solution.
Fameux drift.
Exactement, les drifts. Donc, on essaie de faire des études quand il y a une approche qui a été développée pour s'assurer qu'on l'utilise le mieux possible. On n'y arrive pas forcément toujours de manière parfaite, mais en fait de notre mieux.
Pour le bénéfice de tous, le drift dans l'apprentissage modèle, c'est que les données peuvent changer au fil du temps, les données qui sont pertinentes pour prendre une décision. Il existe différents types de drift. Dans ce cas-ci, on veut s'assurer que le modèle demeure fiable.
J'imagine
qu'il y a des enjeux similaires aussi.
Oui, ouais, absolument. Absolument. Mais y a une problématique que WhaleSeeker a. Je me demande, Arnaud, aussi, c'est la même chose, peut-être dans les équipes de Hydro-Québec, mais aussi au PUP ou avec vos collaborateurs, c'est l'éducation. C'est que les gens pensent que l'intelligence artificielle, c'est la baguette magique, ça peut tout faire et du coup, je peux trouver une solution gratuite sur Internet qui va me faire la même chose. Je n'ai pas envie de payer pour ça. Ou c'est l'inverse, c'est Robocop, ça va prendre mon travail, ça va prendre mon identité, ça va ruiner ma vie. Et pour nous, c'est beaucoup d'expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire, dans quelle solution est-ce qu'il faut l'utiliser ou est-ce qu'il y a d'autres solutions, ouais. Comme tu disais. On n'a pas besoin de jeter l'intelligence artificielle sur tous les problèmes. Pour nous, c'est vraiment de parler avec nos clients, avec nos collaborateurs, de dire, est-ce que c'est la bonne solution pour vous ou est-ce que vous pouvez faire ça autrement?
Oui, on vit la même chose et en effet, il y a beaucoup de communication qu'il faut faire, beaucoup d'éducation. Surtout qu'Hydro-Québec est quand même une grosse boîte avec différentes expertises, différents corps de métier, donc il y a beaucoup d'explications. Mais je dirais quand même que ça se passe quand même très bien parce que une fois que c'est expliqué, les gens comprennent et puis ils ne le voient pas forcément comme une panacée, mais plutôt comme un outil dans le coffre à outils de ce qu'ils pourraient utiliser.
Merci beaucoup à Arnaud et Émilie d'être venus, d'avoir partagé votre expérience. Merci beaucoup de nous avoir écoutés également. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet explore.ai pour rester connectés sur ce qui va sortir pour les prochains épisodes. C'était Il y a du neuf. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci.
Merci.
Merci
à vous.
En conclusion, d'un côté, l'IA de WhaleSeeker scrute les océans pour mieux comprendre et protéger les espèces marines. De l'autre, chez Hydro-Québec, elle veille sous nos pieds, détectant les failles invisibles pour prévenir les catastrophes. Deux applications très différentes, mais un même objectif. Utiliser l'IA pour un avenir plus sûr et plus durable.